Il est 19h50, vous écoutez toujours Radio Canu en direct de la place Satonnet. Alors, on va plus ou moins continuer à parler de répression et de police, comme nos camarades l'ont fait précédemment, mais on va maintenant aborder la question plus générale de l'impérialisme et son contraire, l'anti-impérialisme. Quand on entend le mot impérialisme, on pense souvent aux États-Unis. Il existe cependant d'autres pays puissants comme la France, l'Angleterre, la Turquie ou Israël, pour ne citer que, qui ont exercé et continuent pour certains une oppression sur des personnes et leur territoire. Alors, pour savoir ce qu'est l'anti-impérialisme, il faut comprendre ce à quoi il s'oppose, c'est-à-dire l'impérialisme. L'impérialisme, donc, désigne la tendance d'un ou plusieurs États à mettre en place une domination politique, culturelle, économique ou militaire envers d'autres États, populations ou territoires. Une politique d'expansion, donc, amenant à des dominations collectives ou individuelles qui n'est pas sans lien avec le colonialisme. Des empires mènent, en fait, des politiques de prédation, d'exploitation, des ressources et des populations, et sont pour autant souvent un outil de prestige géopolitique sur la scène internationale. L'un de ces empires, c'est la Turquie, qui depuis plusieurs années mène des attaques envers la population kurde, et c'est de ça dont on va parler en premier, avant de recevoir plus tard des personnes de la NINA et de l'Observatoire des armements.
Donc, comme on vient de le dire, on reçoit d'abord les Kurdes. On reçoit Nedim, qui est traduit aujourd'hui par Tuna. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir.
Et alors, pour commencer, Nedim, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, depuis combien de temps tu es à Lyon?
Nedim, bize kim olduğunu ve ne kadar zamandır Lyon'da yaşadığını söyler misin?
Öncelikle bizi dinleyen tüm dinleyicileri selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.
Je remercie et je salue celles et ceux qui nous écoutent.
Ben Nedim Balko. Aydın Demokrat bir Kürt.
Je m'appelle Nedim Balko. Je suis un Kürt intellectuel et démocrate.
Bu programı ve Departement de Kültür Derneği adına katılıyorum.
Et je participe à cette émission au nom de l'association Mésopotamie.
Yaklaşık 5 yıldır Lyon'da, Fransa'dayım.
Et ça fait à peu près 5 années que je vis en France.
Et donc tu viens du Kurdistan turc.
Et Türkiye Kürdistan'dan geliyorsun, değil mi? Oui.
OK. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un peu rapidement l'histoire récente du Kurdistan et qu'est-ce que c'est que cette terre et qu'est-ce que c'est que ce peuple qui a toujours été opprimé?
Bize kısaca Kürdistan'ın yakın tarihinden, bu toprak parçasından ve bu ülkenin şu anki halinden bahsedebilir misin?
1900 yıllardan sonra emperyalist paylaşımından kaynaklanan Kürdistan dört parçaya bölünüp dört devletin himayesine kurulmuştu.
À partir du début du XXe siècle, le Kurdistan a été divisé en quatre morceaux par l'impérialisme.
İran, Irak, Suriye ve Türkiye olmak üzere dört parçanın sömürüsüne bırakılmıştı.
Ces quatre pays sont l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie.
Bu ülkelerin himayesi olduğu günümüze kadar da bu ülkelerin Kürtler üzerindeki baskı zorunlu işgaleleri bugüne kadar devam etmiştir.
Et la répression exercée par ces quatre pays a duré jusqu'à nos jours.
Bugüne kadar da bunlara karşı Kürtler de boş durmuş değil. Kendi güçleri oranca ve dostların desteğiyle direnmeye devam etmiştir bunlara karşı.
Bien sûr, les Kurdes ne sont pas restés inactifs contre cette répression. Et avec leur force et aussi le soutien des pays amis, ils ont résisté.
Bu mücadele bugüne kadar hala devam ediyor. Bir ülke doğrultuda diğer ülke yani. Mesela Türkiye son yıllarda büyük bir neresi atası soykırma varacak şekilde kimyası silah kullanarak da Kürdistan'ın sadece bir bölgesine tüm bölgesine müdahale etmiş durumda şu anda.
Cette répression ne cesse pas. Elle est reprise par divers pays. Et récemment, c'est la Turquie qui attaque les Kurdes de manière très agressive. Et on peut même parler d'un génocide.
Zaten bugün son dönemde bu sözüm buna kandı işte diğer bölgede yani Irak Kürdistan tarafındaki bölgeye büyük bir operasyon başlatmış durumda ve bu operasyonda elde edemediği sonucu bu sefer Nuh'un canı sivillerde çıkarıyor diyebilirim.
Et récemment, la Turquie a commencé une opération contre le Kurdistan du Sud, le Kurdistan irakien, et essaye de se venger parce qu'elle ne peut pas réussir contre les résistants.
Erin altındaki özellikle cezaevleri olmak üzere, başta olmak üzere diğer aydın, demokrat, sanatçı diyen tüm kesimlere ve ardında da Rojava'ya bir saldırı hazırlığı yapıyor.
Les démocrates, les gens emprisonnés, les civils sont attaqués, ainsi que on parle de nos jours d'une préparation d'une attaque massive au Rojava, au Kurdistan syrien.
Şu anda bunun hazırlığı yapılmakta. Bunu durdurmanın tek yolu buradaki Kürt dostları, özellikle başta Fransa olmak üzere, diğer Avrupa halkları olmak üzere bunu durdurmak hepimizin elindedir. Büyük bir katil önüne hemen geçmemiz gerekiyor yani.
Les préparations sont en train d'être faites, mais il est possible d'arrêter cette attaque, mais ceci dépend de l'investissement, de l'intervention des pays amis et des pays démocrates comme la France.
Çünkü Türkiye'nin burada yapmak istediği şey bir çete kemeri orada oluşturmuştu. Çete kemeri kastettiğim şey bu daha önce Avrupa'ya korku salan DAEŞ dediğimiz paramiliter güçler. Yani bir dönemde DAEŞ Avrupa'nın birçok yerinde katliamlar yaptı. Ve Avrupa'ya büyük bir korku saldı.
Et en fait, la Turquie essaie de mettre en place une ceinture de sécurité, un front. Et d'abord, elle a essayé cela avec l'État islamique, qui aussi a agressé l'Europe en se basant en fait sur sa présence en Syrie. Mais ceci a échoué, donc maintenant, c'est par elle-même qu'elle s'implique.
Alors, comme tu le disais, cette opération-là d'envergure lancée par Erdogan, elle est assez récente, elle date d'avril, et c'est un peu un revirement d'une opération militaire et de psychologique aussi. Comment cette situation, elle est vécue là-bas, que ce soit militairement ou que ce soit les civils, comment l'organisation, elle se fait ?
Bu çok yakın zamanda başlayan bir operasyon. Nisan ayından beri sürüyor. Özellikle Güney Kürdistan'da. Bunun hem askeri hem de sivillerin yaşamı üzerine etkilerinden bize bahsedebilir misin?
Evet, yani özellikle sivillerin üzerinde etkisi büyük. Oradaki, o alandaki birçok sivil köyler olabilecek vahşetin önünü vahşetten kurtarabilmek için şu köyleri boşalttılar. İkincisi, boşaltılmayan köyler uçaklarla, diğer bildiğimiz silahlarla, silahlı silahlarla bombalanıp o şekilde köyleri boşaltıyorlar.
En fait, les conséquences surtout sur les civils sont majeures. Sur les villages sur le front de guerre sont soit évacués, et dans le cas où ils ne sont pas évacués, sont attaqués par directement l'aviation turque ou par les drones turcs.
Yerli alanda başarı elde etmediği noktalarda da hıncını sivillerde çıkarıyor.
Quand la Turquie échoue contre la guérilla, elle se venge en s'en prenant aux civils.
Bugün belki haberlerde duymuşsunuz, Bamerni bir bölgesi diye bir bölge var. Orada sivil bir halk piknik yapıyormuş. Yapılan o piknik esasında siyahlarla bombalanmış orası. Şu an orada 3-4 tane çocuk yanılmıyorsam
Et nous avons entendu aujourd'hui qu'une famille de civils qui faisait un pique-nique a été attaquée par les drones et 3 ou 4 enfants sont morts.
Türkiye bu son 2,5 aya yakın bir operasyon sürdürüyor. Operasyonu sürüyor. Bu operasyonda elde etmek istediği şeyi elde edemedi. O bir kesin. Elde edemediği şeyi de hıncını diğer sivil alanda çıkarmaya çalışıyor. Onun için bu Rojava'ya dönük bir operasyon hazırlığı kararı alınmış. Ama ne zaman başladı tam belli değil.
Cette opération dure depuis plusieurs mois. Néanmoins, c'est un échec sur le plan militaire. C'est pour cela que la Turquie s'en prend aux civils. Mais c'est aussi pour cela que la Turquie prépare une opération d'envergure contre le Rojava, le Kurdistan syrien.
Et donc, tu disais tout à l'heure que depuis la France, des actions sont possibles aussi, notamment à Lyon, il y a la Maison de la Mésopotamie qui converge un peu la résistance kurde à Lyon. Quelles sont les actions possibles et qu'est-ce que vous, vous mettez en place au niveau de la Maison de la Mésopotamie pour tenter de faire bouger les choses ?
Fransa'dan da bu saldırganlığa karşı bir şeyler yapmak mümkün, bu konuda aktif olmak mümkün. Özellikle Mezopotamya Kültür Derneği Kürt direnişinin birleştiği bir yer olarak ön plana çıkıyor. Sen bize bu konuda neler yapılabileceğini, ne öneriler getirebilirsin?
Özellikle bu konuyla ilgili tüm sosyalist, komünist, devrimci, demokrat, entelektüel kesim, yani kim kendine ben aydınım diyen herkesin üzerine bir sorumluluk düşüyor. Birinci sorumluluk bu ölümlerin önüne geçmektir.
En fait, toute personne qui se veut responsable, toutes les personnes qui sont de gauche, qui sont démocrates, révolutionnaires ou autres, mais qui se voient comme des personnes responsables, doivent s'impliquer.
Yani bunun şöyle diyeyim, sadece Mezopotamya öncülüğünde olması gereken bir şey değildir. Bu insani boyutuyla yapılması gereken şeydir.
Il n'est pas nécessaire que ce soit guidé par la maison de par la, l'association Mésopotamie, mais c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble.
Çünkü hepimiz gündemi takip edebiliyoruz, takip ediyoruz, okuyoruz ve olanları görüyoruz. Yani bunu görüp de her bir şey yapmıyorsak, o zaman kendi insanımızda biraz şüphe etmemiz gerekiyor.
Parce que nous sommes toutes et tous capables de suivre ce qui se passe, de suivre le quotidien. Et ça nous rend responsable vis-à-vis de ce qu'on observe.
Bundan bundan sonra sadece Mezopotamya değil, Mezopotamya'ya benzer diğer kurumlar, Fransa'nın birçok kurumları birçok şehrinde var. Bunların yapacağı etkinlikler ve bu etkinliklere bizim Fransız dostlarımız da, hani bunu dedim, sosyalist, komünist, aydın, demokrat, entelektüel kim olursa olsun bu eylemlere sahiplenmesi, destek vermesidir.
Et non seulement ici à Lyon, mais partout en France, il y a des associations comme la Mésopotamie et nous souhaitons que les forces démocratiques revendiquent en fait leurs actions et soient solidaires.
Şunu diyebilirim. Şimdi biz buralarda belki rahatız, gülüp eğlenebiliyoruz, şey yapabiliyoruz ama Kürdistan coğrafyasında oradaki halk buradaki gibi rahat değiller. Her an kafana bir bomba düşmesiyle sürekli tedbir amaçlı kendine iş yapıyorlar.
Dans ce pays, nous menons une vie plutôt confortable, mais pensons aux gens qui vivent au Kurdistan. À tout moment, une bombe peut les tuer. Donc pensons à eux et agissons.
Et au niveau davantage des stratégies que met en place la Maison de la Mésopotamie, est-ce que tu peux rapidement nous en dire un peu plus?
Stratejik olarak neler öneriyor Mezopotamya? Bundan da bir parça bize bahsedebilir misin?
Yani önümüzdeki süreçlerde bizim özellikle demokratik eylemler her alanda gerçekleşecek. Bu Lyon'da dahil olmak üzere. Yani bu sadece işte bu radyo programı gibi benzer diğer programlar gibi de olsa bunlara katılıp diğer başka etkinlikler daha da geliştirip birlikte hareket edebilirsek hani sesimiz bu konuda sesimiz yükselebilir. İstediğimiz kitleye ulaşırsak belki bir yatki yaratabiliriz burada.
Nous envisageons des actions démocratiques dans l'avenir, comme par exemple cette émission de radio. Nous voulons faire entendre notre voix, donc si nous pouvons participer à de tels événements, ce sera bienvenu.
Burada şimdi Mezopotamya Kültür Merkezi dediğimiz kültüre etkinliklerin burada yapılabilmesidir. Maalesef bu savaştan kaynaklı zeynülen topyekin aslında imha yönelik saldırılardan kaynaklı burada etkinliklerimizi rahatça geliştiremiyoruz.
En fait, c'est pas seulement la Mésopotamie, mais en fait, en général, les activités culturelles kurdes doivent être soutenues parce que, à cause de la guerre et de ses conséquences, nous avons des difficultés à mettre en place nos activités.
Çünkü bizim oradaki kardeşlerimiz can verirken biz burada eğlenemiyoruz. Ya da kültürel bir şey rahat geliştiremiyoruz.
En fait, c'est aussi parce que nos frères meurent dans leur vie et là, et nous, pour nous, c'est difficile de s'activer culturellement sur le plan culturel.
Ben, merci beaucoup Nedim et merci Tuna pour la traduction. On fait une petite pause musicale avec un groupe kurde qui s'appelle Awazic Sia, je ne sais pas si je prononce bien, et le morceau qui s'appelle Korejaro.
On continue à parler d'impérialisme avec trois personnes qui nous ont rejoints. On est avec Manu et Jean-Pierre qui sont de la NINA Lyon et Tony de l'Observatoire de l'Armement. La NINA, c'est, vous allez nous le présenter un peu tout à l'heure, ni ici ni ailleurs, c'est ça. Basiquement, vous êtes basé à Lyon et vous avez beaucoup lutté contre les Center Park, vous avez eu des victoires, vous luttez contre tous les projets inutiles de la région. J'ai lu ça sur votre site. Et l'Observatoire de désarmement, association fondée en 84, vous êtes un centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, deux axes de recherche, de travail, le contrôle des transferts d'armes et des ventes d'armes de la France et la suppression de l'arme nucléaire, notamment française. Vous êtes donc antimilitariste, antinucléaire. Vous avez, entre autres, lutté pour la réparation et la justice des victimes d'essais nucléaires, notamment en Polynésie française ou en Algérie. Également basé à Lyon, vous possédez environ 6000 ouvrages, des abonnements à des revues et des archives consultables par qu'ils souhaitent étudiants ou journalistes. Vous vouliez rebondir sur la lutte kurde dont parlaient nos camarades juste avant, à propos de l'entreprise Metavib, c'est ça ?
Metravib, tout à fait, l'entreprise Metravib, parce qu'on a travaillé précisément sur l'implication des entreprises locales d'armement par rapport aux conflits. Souvent, on regarde les grandes sociétés de type Thales Safran, mais on oublie les petites PME ou alors les usines de grandes sociétés qui habitent à côté de chez nous et qui produisent de l'armement qui règle les conflits. Et parmi nos recherches, parce qu'on vient de sortir un rapport, hein, la guerre se fabrique près de chez vous, il y a une société qui s'appelle Metravib, qui est située en région lyonnaise, et qui fabrique des capteurs acoustiques de tir. Et ces capteurs acoustiques des tirs ont notamment été cédés à la Turquie, hein, et se sont retrouvés dans un type de blindé qui est couramment utilisé contre les Kurdes, hein, la frontière entre la Turquie et l'Irak. Et on a effectivement documenté cela. C'est un exemple parmi d'autres, en fait, de sociétés qui sont impliquées dans des répressions ou dans les conflits actuels.
On sort d'une période d'élection. Est-ce que l'un de vous peut me faire un peu un bilan du quinquennat qui vient de passer concernant les ventes d'armes? Il paraît que c'est l'un des plus prolifiques pour la vente française d'armes. On est passé de 5e à 3e, je crois, des meilleurs pays vendeurs d'armes. C'est quoi le bilan de ces 5 dernières années?
Bah, c'est toujours variable, hein, les ventes d'armement. C'est vrai que depuis en fait, le quinquennat de François Hollande, on est revenu à des niveaux effectivement, qu'on pouvait avoir dans les années 70, hein, puisque c'est par cycle, avec des ventes d'armes importantes de type sous-marin à l'Australie ou ventes de rafales aux Émirats, à l'Inde, au Qatar. En fait, sur 10 ans, mais c'est par cycle. Là, on atteint effectivement. On a longtemps été cinquième vendeur d'armes au monde il y a 15 ans, 15-20 ans. Et puis là, on est passé effectivement au troisième rang, ce qui devrait nous interpeller en tant que citoyens. Hein, on devrait se mobiliser contre ça parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la France utilise l'outil militaire justement pour pousser son influence, pour récupérer des ressources ailleurs. Pour entretenir des relations avec tel type de régime. Mais ça, c'est insuffisamment questionné par tout un chacun. On ne voit pas, en fait, les conséquences, effectivement, de la présence militaire française ou de nos ventes d'armes. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur les entreprises de la région. C'est justement pour que, en tant qu'habitant d'un lieu, on se sente plus concerné. Et surtout qu'on ait des moyens d'action, parce que si c'est une société qui est située à côté de chez nous, on va pouvoir agir, on va pouvoir faire une manif, on va pouvoir faire un sit-in, etc. etc. On restaure des moyens d'action par rapport à ce sujet qui peut paraître lointain, où l'État a le plus de prise aussi, hein, parce que ce n'est pas évidemment les collectivités locales qui ont le plus de prise, c'est l'État qui décide de là où les armes vont, qui donne effectivement son tampon pour envoyer des armes dans tel ou tel pays.
Et donc je voulais vous faire réagir à un extrait audio de Florence Parly, l'ex-ministre des Armées, qui, lors de la cérémonie pour son successeur, a parlé des ventes d'armes françaises. Et on écoute ça tout de suite.
En 5 ans, l'équipe France a remporté des victoires historiques à l'exportation. 200 rafales et 65 milliards d'euros de prise de commandes. C'est un travail de long terme, de patience, de détermination et de diplomatie. Et c'est un travail indispensable pour la souveraineté française et pour l'efficacité de notre défense. Nous avons besoin d'exporter pour pouvoir construire nos propres équipements. Nous avons doté nos armées de stratégies et de doctrines qui sont clés pour faire face aux conflits d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Dans l'espace, dans les fonds marins, dans le cyberespace, la sphère informationnelle ou le domaine de l'énergie, nos forces, je le crois, sont désormais mieux armées. Ce ministère est celui du temps long. À la fin de ce siècle, vogueront encore certains navires que nous commençons tout juste de construire.
Deux questions en une. Tout d'abord, l'abnégation du gouvernement français à toujours vouloir vendre plus d'armes et, comme elle le dit, une sorte d'objectif à long terme politique et géopolitique et d'entretenir des relations avec les autres pays. Ma question première, c'était l'argument sans cesse revenu par le capital qui est le travail. À quel point est-ce que ça entretient je crois qu'il y a 200 000 personnes en France qui travaillent de près ou de loin sur l'armement. Et du coup, est-ce que cet argument du travail est vrai, la protection des emplois? Et la deuxième question, c'est... on va commencer sur ça d'abord.
Oula, c'est, le secteur, c'est au moins 200 000 travailleurs directs plus des sous-traitants. C'est un secteur assez important. Mais en même temps, est-ce qu'il est rentable? Ça, c'est autre chose. Parce que y a un premier problème, c'est que les objets fabriqués par les militaires n'ont aucun intérêt pour le civil. Donc ils sont totalement disproportionnés en termes de qualité, de complexité. Donc les retombées pour le civil sont extrêmement limitées. D'autre part, dans la comptabilité nationale, ce n'est pas considéré comme du capital. C'est considéré comme un truc qui peut être détruit. Dès le début, dans la comptabilité nationale, les équipements militaires, c'est ce qu'on appelle des produits intermédiaires. C'est-à-dire que c'est destiné à disparaître. C'est normal, ce sont des armements. Donc ça a très peu de valeur. Donc, là, après, en plus, la bonne santé de l'armement, mais Tony pourra peut-être accentuer là-dessus, c'est que les ventes qui sont faites par l'État français, avec l'accord de l'État français, sont en partie financées par ou garanties par l'État lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on est très fier de vendre des armements, mais une partie de l'argent qui est destiné à cette vente, il est garanti par l'État français, à savoir donc par le contribuable français qui n'a pas son mot à dire. Tu veux peut-être développer ?
Oui, et je dirais que c'est des ventes qui nous engagent, puisque généralement, on vend des armes dans des zones où on a des intérêts, notamment énergétiques. Si on a vendu et livré des patrouilleurs au Mozambique, c'est parce que Total a des intérêts dans la zone, notamment gazier. Et bizarrement, quand Total s'est installé, il y a eu une insurrection. Un de ses patrouilleurs est tombé aux mains de l'insurrection, etc., dans des conditions troubles. De même, le Yémen, on a des intérêts gaziers. Alors, ce n'est pas forcément toujours des intérêts gaziers dans les pays. Mais en tout cas, ça questionne cette idée que si on veut réfléchir à une décroissance, à une transition énergétique, on est obligé de remettre en cause la place du militaire dans la société. Et ça, c'est insuffisamment fait. L'outil militaire est extrêmement présent. On est le pays européen qui mène le plus de guerres. Et pourtant, il n'y a pas assez de mobilisation sur le sujet. Rien qu'au niveau local, on a recensé 11 sociétés qui sont mêlées avec les conflits actuels. On a notamment une société militaire privée qui est basée à Brignais, qui s'appelle Corpguard, qui forme les militaires ivoiriens. Donc elle est forme à je ne sais pas quoi, mais en tout cas, plusieurs années plus tard, ces soldats ivoiriens ont été impliqués dans un massacre de population en marge de l'élection présidentielle locale. On a également Arcus, qui est à Saint-Priest, où il y a une antenne recherche et développement, qui fabrique des blindés. Mais ces blindés, ils servent à quoi ? On s'aperçoit qu'ils sont utilisés du Chili au Liban, en passant par l'Égypte, dans la répression des mouvements sociaux, parce qu'il y a une demande de la part des régimes autoritaires du Moyen-Orient, à partir des printemps arabes, de s'équiper du matériel de police pour faire face à la contestation de la population. Et l'industrie française de l'armement s'est adaptée à cette demande en éditant d'ailleurs une petite brochure qui s'appelle « Gestion démocratique des foules ». Donc voilà, c'est une entreprise qui est locale. En tout cas, il y a une antenne locale. On peut agir en tant que citoyen, on peut se mobiliser, on peut faire une manifestation. Et il y a aussi Delta Drone qui est à Dardilly. Delta Drone, normalement, un drone, c'est un objet militaire. Et pourtant, Delta Drone fabrique des drones qui ne sont pas catégorisés militaires, qui sont civils, mais qui sont cédés à des compagnies minières, pour soi-disant pour la topographie en fait, des ressources physiques. Mais quand on va sur leur site, et quand on interroge des industriels de l'armement, ils expliquent que ces drones servent aussi au contrôle des populations. Et ces compagnies minières sont généralement en lutte avec les populations locales, notamment les autochtones, les aborigènes en Australie. Vous voyez ? Donc cette société, pareil, on peut agir. Et je vais peut-être laisser du coup Jean-Pierre et Manu peut-être intervenir sur les pistes de mobilisation concrètes. Parce que c'est ça, les constats, on les connaît, mais maintenant, il faut pouvoir agir.
On a pris l'initiative avec notre petite troupe et les copains de l'Observatoire des armements. On a fait un appel à mobilisation. C'est bien pour des antimilitaristes, pour lutter contre l'industrie de l'armement en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc à partir des informations contenues dans le dossier et puis d'autres choses. C'est-à-dire que doivent être intégrés et pris en compte la lutte contre le service national universel que Macron et son équipe veulent continuer à mettre en place malgré 2 années de Covid. Faut aussi dire que plein d'autres candidats à l'extrême droite comme à gauche sont pour un retour d'un service national. Comment s'appelle-t-il ? Mélenchon, il est pour un service national de 9 mois. Marine Le Pen, de 3 mois. Donc, alors, on se dit lequel est le meilleur, lequel est le pire. Mais bon, ils sont quand même tous d'accord pour qu'il y ait un retour du service national, parce qu'il faut soit commencer à de nouveau embrigader la jeunesse, et puis il faut préparer le fait qu'on va peut-être être amené à devoir combattre et d'avoir un format d'armée qui soit suffisamment important pour pouvoir mener des opérations militaires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc, il y a ça. Il y a tout ce qui est cette espèce qu'on appelle le continuum militaro-sécuritaire, qui fait que des technologies destinées aux civils sont utilisables par les militaires, des technologies militaires sont utilisables pour le civil. C'est les mêmes entreprises qui vont vous vendre un smartphone sécurisé, un logiciel de sécurisation de votre smartphone, qui vont par exemple organiser l'espionnage des télécommunications vocales en Égypte. C'est une société qui s'appelle Aircom, qui est une filiale de Thales, si je ne me trompe pas, qui est basée. Enfin, ils ont un bureau à Lyon, ils ont un siège en région parisienne, ils ont un bureau à Lyon. Donc ils ont été pris la main dans le sac, dans l'espionnage des communications des opposants à la dictature d'Al-Sisi. Al-Sisi.
Et en 30 secondes, très rapidement, quand on voit Florence Parly qui parle de militarisation de l'espace, cette sorte de course à l'armement infinie, comment est-ce qu'on s'organise ? Qu'est-ce que vous proposez ? Vous faites des rapports, la NINA aussi. Comment on sensibilise les gens ?
Voilà, donc nous, on a créé ce collectif avec les copains. On prévoit des actions. On prévoit une action publique à la fin du mois de juin contre l'organisme qui centralise au niveau de la région Rhône-Alpes l'ensemble des industries et des industriels de l'armement et de la sécurité, qui s'appelle le cluster Eden.
Okay.
Et qui regroupe plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'entreprises en Rhône-Alpes, mais au-delà. Ils sont tellement actifs qu'ils ont maintenant des contacts dans l'ouest de la France, donc dans le secteur du naval, par exemple, du naval militaire, en Méditerranée. Donc c'est une énorme structure qui sert à faire de la promotion et la vente, et qui défend les intérêts de l'industrie de l'armement et du sécuritaire. Voilà.
Très
donc
bien.
Il y a des choses de prévues, puis on a des réunions de temps en temps. Voilà. On met tout ça au point.
Merci. Il faut qu'on laisse l'antenne. Je suis désolé, Tony.
Oui, dont tous les gens.
Non, rien.
Mais merci à vous d'être venu. Merci, Manu. Si tu n'as pas parlé, au moins on a pu te voir et les gens de la place ont pu te voir.
De rien.
Et on vous laisse sur de la musique. Merci à vous, les gens de l'Observatoire des armements et de la NINA. Merci beaucoup. Bon.
Non, j'ai pas.